voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et dans le grand rendez-vous ce soir, nous parlons de la polémique concernant l'opération de levée des fonds du parti d'opposition PASTEF au Sénégal. Dans l'immédiat, analysons dans notre escale décryptage la réélection de Faustin Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine avec notre invité.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Dieudonné Zapadangia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste et analyste politique. Vous êtes en ligne de Bangui en Centrafrique. Le coup chaos de Faustin Archange Touadéra avec près de 54% des voix était-il attendu ou êtes-vous surpris par la victoire dès le premier tour du président sortant?
En fait, madame, personne n'est surpris par cette victoire de Faustin Archange Touadéra. Simplement parce que tout le monde s'en donne un chef du moment où François Bozizé a pris le maquis. Et que François Bozizé s'est rallié avec l'autre là, de Le Guélé. Donc tout le monde a vu que la solution, la vie problème, c'est de mettre encore sur l'excel l'autre François Bozizé Touadéra.
Donc vous voulez dire que l'alliance de Le Guélé, Bozizé, du KNK, a causé du tort à l'opposition?
Pas à l'opposition de manière générale, mais à l'autre là, personnellement, à de Le Guélé, mais pas à l'opposition de manière générale. De Le Guélé était bien parti. Alors, tout le monde savait que, surtout la population rurale est celle qui a vécu dans ces mondes recoins et les affres de la rébellion. C'est cette population-là, la population provinciale. Et cette population devait se, permettez-moi le terme, entre guillemets, devait se venger de Touadéra pendant ces élections. Malheureusement, de Le Guélé, qui devait être plébiscité par cette population provinciale, a eu le malheur, a eu la mauvaise vision de s'associer avec le KNK de Bozizé qui est devenu leur bourreau, qui était leur bourreau. Donc c'est ce qui a fait que les gens sont rabattus sur qui? Sur Touadéra. Donc vous comprenez un peu ce que je veux dire par là. Mm-hmm.
Mais il y a aussi que l'élection ne s'est pas réellement tenue en dehors de Bangui. L'élection n'a pas eu lieu dans les régions reculées du pays, à l'intérieur du pays.
Justement, c'est ça. C'est ceux de la RPI qui devaient faire une vote sanction, un vote sanction vis-à-vis de M. Touadéra. Mais comme ils ont été submergés par une rébellion, qui ne dit pas son nom, par une rébellion qui vient encore de qui? De M. Bozizé. Ils se sont dit, mais ça ne vaut pas la peine. Il faut qu'on donne encore une autre chance à qui? À M. José Archange Touadéra.
M. Touadéra a donc été réélu dès le premier tour, mais les autres candidats, dont Anissé Georges de Le Guélé, arrivé deuxième, et Martin Ziguélé en troisième position, parlent de farce électorale.
Ça ne manque pas, c'est vrai, des illégalités. Mais quand vous voyez le pourcentage avec lequel il est élu, quoi qu'il arrive, quoi que l'un fasse, quoi que l'autre la plus conscience fasse, voyez un peu le pourcentage avec lequel Touadéra a gagné au premier tour. Il y a pratiquement 54%, ça fait 53%, 92%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la Cour constitutionnelle arrivait à évaluer certains lieux de vote, ce monsieur va quand même prêter à 51% et a passé au premier tour. C'est l'opposition, cette rébellion-là, qui a donné cette opportunité. Parce que c'est la sanction devait venir de l'arrière-pays, de ceux qui ont souffert de la rébellion, mais pas de Bangui. Bangui, ils sont à l'aise, Bangui, ils sont protégés. Mais l'arrière-pays souffre.
Pour vous, la rébellion a rendu service à Faustin Touadéra?
Tout à fait, madame. La rébellion a rendu un grand service à Touadéra. Vous vous êtes dans la situation de M. Ziguéli, où il cartonne là. Et les urnes ont été emportées, saccagées. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a qu'à se dire pour pleurer.
Mais en tout état de cause, M. Dangia, l'organisation d'un second tour aurait-elle été possible compte tenu de la situation sécuritaire volatile?
Tout à fait. Prenez seulement les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous prenez les chiffres. Les Bolivouba qui arrivent, 5 minutes qui viennent par là, vous prenez les chiffres. On les met ensemble pour un second tour. Mais c'était le chaos pour c'était la fin de M. Touadéra. Mais heureusement, ils ont ouvert la grande porte. Et là, il en a profité. Quand ils réclament là, je crois que la Cour constitutionnelle va seulement diminuer un peu le taux de 54%, on peut tomber à 51%, il va partir, il va gagner du coup.
Donc la réélection de Faustin Archange Touadéra sera confirmée par la Cour constitutionnelle, selon vous?
Bien sûr que oui.
L'opposition conteste la réélection de M. Touadéra. Les groupes armés restent menaçants. Est-ce que M. Touadéra, réélu, va-t-il pouvoir gouverner? À quoi va ressembler son second quinquennat, d'après vous?
Si j'étais Touadéra, je vais mettre ça sur le signe de la transition. Rien à faire, parce qu'il est mal élu. Il est mal élu. Donc c'est à lui maintenant de voir comment il veut faire, parce qu'il a ouvert les hostilités vis-à-vis des groupes armés. Est-ce qu'il a les moyens de continuer ce combat-là jusqu'à pendant son quinquennat? Est-ce qu'il a les moyens matériels ou militaires pour le faire? S'il a les moyens, ok, c'est mieux. Mais s'il n'a pas les moyens, ben, il va continuer à discuter avec eux. Il a déjà été dans là pendant 5 ans.
La justice a ouvert une enquête judiciaire contre François Bozizé. Quelles peuvent être les conséquences de cette procédure?
Les conséquences seront un peu difficiles à gérer. Est-ce que le mouvement, la CPC, va se soulever avant que l'autre soit mis en arrêt? Est-ce que cette justice-là a les moyens de mettre la main sur François Bozizé? Il y a tout ça. Donc, lorsqu'il sera arrêté, on va voir. Mais par qui? On va voir. Cela aura des conséquences, non seulement sur la politique, mais sur le devenir, sur l'avenir du peuple centrafricain.
Dieudonné Zappa Dangia, merci beaucoup.
Merci, madame.
Juriste et analyste politique centrafricain, il était en ligne de Bangui.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand rendez-vous et je vous rappelle que ce soir nous allons parler du bras de fer qui oppose le ministre sénégalais de l'Intérieur au principal parti d'opposition, le PASTEF, après que ce parti eut lancé une opération de levée de fonds pour financer ses activités politiques. Nos invités sont en ligne de Dakar, Abdou Mbop, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint du parti présidentiel APR. Monsieur Mbop, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Bienvenue à vous. Merci également à vous d'être avec nous, Abdou Ba, juriste et membre du mouvement des cadres de PASTEF. Bonsoir, monsieur Ba.
Oui, bonsoir. Merci de nous avoir invités.
Merci à vous aussi, Mouhamadou Gouda Bop, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Bop, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Alors, le week-end dernier, je vais commencer avec vous, monsieur Amadou Ba. Le week-end dernier, votre parti parlait de plus de 125 millions de francs CFA collectés. Et quels sont les derniers chiffres? Où avez-vous décidé peut-être de suspendre l'opération suite aux menaces du ministre de l'Intérieur ou la sortie du ministre de l'Intérieur?
Non, il n'est absolument pas question de suspendre la collecte. Il y a peut-être une petite précision à apporter par rapport à ce qui est dit un peu partout. On n'a pas levé les 129 millions en une journée, comme ça a été dit.
Ah, c'est 129 et non 125.
Oui, non, mais les montants continuent d'arriver, en fait. On n'a pas encore un chiffre définitif.
Dans les derniers chiffres, c'est 129 millions et non 125.
Non, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas arrêté la collecte. Donc, chaque jour, on va peut-être vous donner encore un nouveau chiffre. Parce qu'il s'agit de le programme Némé Koutour pour la collecte de fonds a commencé il y a plus de 3 semaines. C'est qu'on a retenu la date du 2 janvier pour que toutes les coordinations se réunissent au siège à Dakar pour apporter plus la diaspora, donc pour que chacun apporte ce qu'il a réussi à collecter. Et c'est ça qui fait ce montant. Donc nous avons été extrêmement surpris et révoltés par le procédé.
Monsieur Ba, avant d'aller très vite, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez être précis? Au 5 janvier, à cet instant précis, quelle est la cagnotte?
Là, vous me posez une colle. J'ai peur de vous donner un chiffre qui va encore être susceptible d'être modifié. C'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas ce qui compte le plus à ce jour, parce qu'on arrêtera la collecte à un moment donné, on pourra donner les chiffres définitifs. Mais ça va progresser de jour en jour parce que la collecte continue et qu'on arrive, on reçoit encore les fonds ici au Sénégal de venant de partout, de toutes les localités. Donc, ce n'est pas fondamentalement ce chiffre qui est important, je pense, parce que ça peut dépasser largement ce montant. mais plutôt pourquoi on l'a initié et dans quelles conditions de traçabilité et de transparence on a réalisé cette collecte. Je pense que ce sont ces éléments qui sont les plus importants.
Et vous sembliez dire que vous êtes surpris par la mobilisation des Sénégalais et de l'étranger et aussi du Sénégal?
Du tout. La surprise, c'est plutôt la révolte, le procédé sur le plan juridique très cavalier du ministre de l'Intérieur et le procédé aussi déloyal sur le plan politique. Parce que cette collecte, comme je vous ai dit, a commencé il y a plus de 3 semaines. Le jour même, on l'a fait en direct sur des sites référencés par au niveau de la diaspora. Et vous savez très bien, depuis les attentats du 11 septembre, comment il est difficile de collecter de l'argent depuis l'étranger, parce qu'il y a des contrôles énormes qui sont faits. Donc, tout est trace. C'est facile de voir. Oublions le montant et rapportons ce montant au nombre de participants. On se rend compte que c'est un projet populaire. Ce n'est pas 3 ou 4 mécènes qui ont sorti l'argent. La collecte se fait en live, en direct, et le ministre de l'Intérieur est plus outillé que nous pour contrôler les flux.
Merci.
Ce sont des sommes astronomiques que les gens ont données. Peut-être les plus grands montants ne dépasseront pas les 100 dollars ou 100 euros.
Merci, M. Ba. Abdou Bo, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Comment analysez-vous les propos de M. Ba qui dit qu'ils ont poursuivi l'opération? Est-ce que pour vous, c'est une défiance?
Merci, madame. Je voudrais d'abord saluer mes co-débatteurs, le professeur et M. Ba, mais aussi rectifier quelque chose que vous avez dit tout à l'heure en disant que les menaces du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'a menacé personne. Le ministre de l'Intérieur n'a fait que sortir un communiqué pour rappeler ce que la loi dit. Parce qu'au Sénégal, il y a une loi qu'on appelle la loi sur les partis politiques qui a été votée en mai 1981 et qui a été modifié en 89. Et c'est une loi qui porte sur les partis politiques. Et dans cette loi, à l'article 4, alinéa 3, la loi dit la dissolution d'un parti politique intervient également dans le cas où un parti applique une modification de structure fixée par le ministre de l'Intérieur. Mais il y a une partie où on dit que lorsque un parti a reçu directement ou indirectement des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal. Ça, c'est la loi qui le dit. Et le ministre de l'Intérieur, quand il a vu, par exemple, les levées de fonds engagées par le parti, il n'a menacé personne, il a juste sorti un communiqué pour dire ce que la loi sénégalaise
dit. C'est un rappel à l'ordre.
Oui, voilà, c'est un rappel pour rappeler. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas contre un parti politique, mais c'est ce parti politique qui a initié une opération.
Donc, si j'ai bien compris, même si c'était le APR qui lançait cette opération, ou un membre de la coalition de la majorité, Benno Mbokh-Yakar, le ministre aurait réagi de la même façon.
Mais je vous le dis encore une fois, madame, si l'Alliance pour la République, notre parti, avait lancé une opération pareille, le ministre de l'Intérieur allait avoir la même attitude. Et je voudrais le dire ici, encore une fois de plus, ce n'est pas une menace, mais c'est juste que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé des libertés, et tout à l'heure, par exemple, le professeur vous le dira, peut-être il ne sera pas d'accord, peut-être sur la forme ou autre chose, mais en tout cas, ce qui est constant, réel, et c'est ce qui existe, c'est que ce que le ministre de l'Intérieur a dit, ce n'est pas lui expressément qui l'a dit, mais c'est la loi qui réglemente les partis politiques.
Mais en évoquant aussi, même s'il a donné des références juridiques, le fait que cette formation risque d'être dissoute, est-ce que ça n'a pas été compris comme une intimidation, une mise en garde, une menace?
Encore une fois de plus, ce ne sont pas les propos du ministre de l'Intérieur, c'est la loi qui dit cela. Donc, le ministre de l'Intérieur n'a fait que rappeler la loi. D'ailleurs, si on cite, on ouvre les guillemets pour dire que voilà ce que le législateur sénégalais a dit et non le ministre de l'Intérieur. Encore une fois de plus, quand on parle de dissolution, c'est la loi qui
Merci.
Utilise ce mot. Donc, le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas faire un commentaire par rapport à la loi. C'est vrai qu'une loi hier, même le professeur me l'a dit, il y a l'esprit et la lettre de la loi, mais cela va des commentaires de chacun. Chacun
Merci
peut
beaucoup.
Avoir son commentaire là-dessus, mais aussi la loi, elle est dure, mais la loi, elle est là pour tout le monde.
Merci beaucoup. On a la chance d'avoir Mohamedou Gouda Bob, qui est enseignant et chercheur en droit public. Monsieur Bob, quelle a été votre compréhension de cette sortie du ministre de l'Intérieur?
Alors, j'ai deux compréhensions. La première, c'est qu'en réalité, il est normal que les partis politiques, quand même, donc, puissent chercher du financement dans le cadre de leurs activités pour pouvoir stimuler, quand même, la démocratie sénégalaise. Ça, c'est important. La deuxième chose, il est important aussi que, en réalité, que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé d'administrer les libertés, qui est chargé, quand même, donc, de la sécurité intérieure du pays, puisse, quand même, donc, en réalité, donc, intervenir à chaque fois de besoin. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en réalité, le ministre de l'Intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Parce que dans la mesure où la loi de 81, quand il vise quand même des subsides venant de l'étrangers ou bien des étrangers établis au Sénégal, qui ne seraient pas donc légaux dans la collecte de ces fonds-là, mais la loi ne vise pas les Sénégalais établis hors du pays. Cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas de discrimination entre les Sénégalais, parce que la Constitution du Sénégal, et d'ailleurs ici, ce sont deux articles numérotés qui se suivent, l'article 3 et l'article 4. L'article 3 parle de l'égalité entre les citoyens, l'article 4 parle des partis politiques. Et la loi de 81, lorsque donc il exclut donc un financement provenant de l'étranger, il parle soit des personnes morales étrangères, ou bien des personnes physiques étrangères. Mais il ne parle pas des citoyens sénégalais. Donc, le ministre, quand même, a bien visé le bon texte, mais quand même, donc, il a fait dire au texte ce qu'il n'a pas dit. En réalité,
est-ce que vous pensez que c'était à dessein pour faire avaler la pilule ou c'était. Voilà. Quelle est votre opinion sur ce que vous venez de dire, ce que votre interprétation selon laquelle le ministre fait dire à la loi ce que la loi ne dit pas?
Vous savez que l'administration, elle est présumée être de bonne foi. Et donc, la bonne foi, donc, doit être... Moi, je présume que le ministre est de bonne foi. Mais certainement, il s'est trompé. Il s'est trompé de bonne foi. Mais quand même, il a visé le bon texte.
Merci.
Et ce qu'il a dit, quand même, donc, c'est une confusion dans l'interprétation de la loi.
Amadou Ba, vous concédez cette erreur du ministre qui s'est trompé?
Il y a plus qu'une erreur, il y a de la malhonnêteté intellectuelle. Et après avoir salué l'honorable député Abdou Mbaou,
Pardon, monsieur Ba, c'était à monsieur Beau, je voulais qu'il réagisse, le porte-parole de l'APR. C'est pas à vous, monsieur Ba, pardon. Monsieur Ba de l'APR. Monsieur Bao, pardon.
Oui, allô, moi je pense que, vous savez, tout à l'heure, le professeur a dit que le ministre a utilisé le bon texte. C'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant. Une appréciation, chacun peut faire son commentaire. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec le professeur et je lui ai fait savoir ça hier. Bon, il n'est pas d'accord avec moi en me disant effectivement que lui, c'est un enseignant chercheur. Moi, je suis un législateur. Je lui ai dit que le
législateur... Et peut-être politicien aussi.
Vous dites ?
Le législateur est politicien.
Non, pas politicien.
Bah, vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais aussi membre, de porte-parole du parti au pouvoir.
Je suis totalement d'accord, mais quand je dis que je suis un législateur, c'est parce que je suis député. C'est vrai que je suis partisan aussi parce que je suis dans un parti et je l'assume. Mais ce que je dis, c'est une loi. C'est pas, par exemple, le ministre de l'Intérieur n'a pas interprété la loi. Lui, il a dit ce que la loi a dit. Maintenant, le professeur, ce qu'il a dit, il y a l'esprit et la lettre. Quand il dit que c'est des Sénégalais qui sont à l'étranger, ne sont pas visés par la loi, ça expressément, on ne l'a pas dit dans la loi. On a dit de l'argent venant de l'étranger. Et maintenant, cela, chacun...
Même si ce sont des Sénégalais.
Sa compréhension là-dessus. Non, je veux dire, chacun peut avoir sa compréhension là-dessus, mais l'argent qui vient de l'étranger, on ne dit pas que si ça vient d'un Sénégalais, d'un Burkinabé ou d'un Français. On a dit...
Pardon ? Allô, monsieur Bao ?
Bon, on a juste dit... De l'argent venant de l'étranger. Voilà
Merci.
Ma compréhension.
Merci beaucoup.
La compréhension que j'ai eue de la loi. Maintenant, chacun peut avoir son commentaire là-dessus.
Merci beaucoup à vous, messieurs. Restez avec nous. On se retrouvera juste après une courte pause et on écoutera Amadou Ba du PASTEF.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Merci d'être avec nous pour le grand rendez-vous sur votre radio et nous parlons ce soir dans votre émission de la polémique concernant l'opération de levée des fonds lancée par le parti d'opposition PASTEF au Sénégal et nos invités sont tous à Dakar. Mohamadou Gouda Bouop, enseignant, chercheur en droit public à l'université Cheikh Kanta Diop. Amadou Ba, juriste et membre du mouvement des cadres de PASTEF et Abdou Mbo, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'APR, parti au pouvoir. Amadou Ba, je suppose que l'analyse que vient de faire avant la pause Mohamadou Gouda Bouop, selon laquelle le ministre de l'Intérieur a utilisé les bons articles, le bon texte, mais a fait une mauvaise interprétation, vous conforte. Alors, mais j'aimerais qu'on revienne plutôt sur ce qui a poussé votre parti à initier cette opération. Est-ce que le PASTEF est en grande difficulté financière? Allô? Monsieur Ba?
De revenir sur l'interprétation.
Oui, un mot sur l'interprétation, si vous voulez, s'il vous plaît, mais après, vous répondez à ma question.
Oui, bien sûr, tout de suite, par Monsieur Abdou Mbaou, qui vous aurez remarqué l'astuce qu'il a faite, en fait, En citant le ministre de l'Intérieur, la loi de 1981, et je vais vous dire pourquoi il a cité volontairement l'alinéa qui parle de la dissolution du parti du pouvoir. Avant d'arriver à la dissolution pour cause de subsides reçus de l'étranger et des étrangers établis au Sénégal, l'alinéa 2 dit que chaque année, au 31 janvier, tous les partis politiques à peine de dissolution sont obligés de déposer leurs comptes financiers de l'année écoulée au ministère de l'Intérieur. C'est la première cause de dissolution avant même d'arriver à l'argent reçu de l'étranger.
D'accord. En préparant cette émission, j'ai vu effectivement qu'il y a un de chercheurs en sciences politiques, en l'occurrence Maurice Soudiek John, qui a mentionné justement ce qu'on vient de dire en affirmant que ce point n'est respecté par aucun parti politique au Sénégal. Donc, vous voulez dire que vous aussi, vous décidez de violer la loi parce que tout le monde la viole?
En faux, totalement. Je peux vous assurer que le PASTEF a été créé en 2014. De 2014-2015 à aujourd'hui, tous les ans, nos comptes financiers ont été déposés au ministère de l'Intérieur. Tous les ans. Et on peut vous le prouver. Par contre, monsieur
Abdou... Ce n'est pas le cas de l'APR, peut-être.
Ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais déposé de compte de campagne et c'était la première cause de dissolution inscrite dans la loi. Pourquoi le ministre fait du deux poids, deux mesures? Deuxièmement, si on revient sur le financement de M. Macky Sall en 2012... Il a sollicité M. Bongo, quand même président de la République du Gabon, dans une lettre explicite rendue publique par les journaux, dans laquelle il lui demande de l'aider à tout point de vue. M. Mbalo, le ministre, le président de Guinée-Bissau, a mentionné quand même clairement qu'il a participé à la création de l'APR et qu'il a financé M. Macky Sall. Et on peut vous citer des hommes d'affaires qui ont financé le président Macky Sall. Vous allez sur Jeune Afrique, vous tapez le nom de Arnaga, qui aujourd'hui est au cœur du système économique et financier sénégalais. Il vient d'être actionnaire du plus grand projet énergétique du Sénégal. Vous voyez bien que si on parle de financiarisation des partis politiques, de la vie politique sénégalaise, de l'incursion des groupes de pression et des lobbies, il faut peut-être se tourner vers le parti du pouvoir qui n'a jamais déposé ses comptes financiers. Et c'est le premier cas de dissolution. Donc, je rappelle juste à M. Abdou Mbaou de nous dire ici publiquement si l'APR a déjà déposé ses comptes financiers. Mais je pense qu'il ne répondra
D'accord.
jamais à cette question.
Il répondra, rassurez-vous. C'est incontournable, il répondra. Alors, l'état financier de PASTEF.
Vous savez, le problème, c'est quoi? M. Macky Sall a initié en 2016 un référendum pour moderniser la vie politique sénégalaise. Il y a inscrit plusieurs points, dont le financement des partis politiques, dans la Constitution, plus le statut de l'opposition. Il n'a jamais pris les lois nécessaires pour clarifier la situation. Donc, on s'en remet à une loi qui date de 1981. Figurez-vous donc que, faute de moyens, le président de la République finance le parti, son parti, grâce au budget de l'État. Vous vous rendez compte? Ils ont acheté leur siège.
Je suis désolée de vous interrompre, M. Ba. Je n'ai pas tous les éléments pour vous laisser faire ces affirmations. Ces propos vous engagent, mais est-ce qu'on peut revenir à la réponse à votre question au lieu des accusations portées contre l'APR?
Je vous dis juste qu'il n'y a à ce jour aucun mécanisme de financement public des partis politiques au Sénégal. Aucun.
Donc les partis s'autofinancent.
Donc, et chacun se débrouille comme il peut, si j'ai bien compris.
Chacun se débrouille comme il veut.
Très bien.
Quitte à
s'exposer à une éventuelle dissolution, comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur.
De l'Intérieur, c'est fourvoyé juridiquement parce qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. Ce qu'on interdit, c'est des subsides venus d'États étrangers ou d'étrangers établis au Sénégal pour servir de sous-marin à des groupes de pression. Donc, PASTEF n'a jamais été dans ce cas. PASTEF a voulu changer la politique et révolutionner la façon de faire de la politique en demandant aux militants de financer le parti pour éviter cette financiarisation de l'économie.
Et de manière transparente.
Mais je vous dis, ça s'est fait en ligne, merci en direct, beaucoup. Live.
Monsieur Ba. Monsieur Mbo, est-ce que vous pouvez répondre aux accusations de Monsieur Ba tout à l'heure? Votre parti n'a jamais déposé son compte de campagne en 2012. Macky Sall a sollicité des aides étrangères pour sa campagne en 2012. Et il accuse le ministre de l'Intérieur de faire du deux poids, deux mesures et appelle la PR à balayer d'abord chez lui.
Vous savez, madame, d'abord, c'est des gens qui sont habitués à ça. Vous-même, vous avez constaté que...
Mais est-ce que ce qu'il a dit, c'est exact ou c'est inexact?
Mais vous m'écoutez, je viens à ça. Je dis bien qu'ils sont... Toujours en train d'accuser les gens, mais ce qu'il a dit, c'est totalement faux et je vais vous le dire tout à l'heure. Vous savez, il a dit d'abord que M. Macky Sall a demandé à Bongo un soutien. Moi, je pense que...
Pour sa présidentielle en 2012.
En tout cas, j'en viens. Je pense que c'est totalement faux parce que c'est une lettre qui circule et la lettre, tout le monde sait ce qui s'y passe, c'était une demande de rencontre entre lui et Bongo. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le gouvernement de Wad avait accusé le président Macky Sall de recevoir des fonds venant de M. Bongo. Ils l'ont convoqué à la police, ils ont fait une enquête, ils ont enquêté au niveau de ses collaborateurs et ça a été classé sans suite. Encore une fois de plus, l'enquête n'est même pas partie au tribunal, c'est au niveau de la police qu'on a classé l'enquête pour dire que M. Macky Sall est blanc comme neige. Ça, c'est un. Deuxièmement, il parle de M. Arunaja, qui est un Sénégalais, qui est là, qui est membre de l'Alliance pour la République. Ce n'est pas quelqu'un qui prend de l'argent à l'étranger pour l'amener ici. Ça aussi, c'est très clair. Il faut que je le dise pour que nul n'en ignore. Autre chose, le genre PASTEF, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de paniquer et je ne sais pas pourquoi. Parce que quand on est dans le droit chemin, quand on est en train de faire des choses que la loi n'interdit pas, on n'a pas quand même à paniquer, on n'a pas à crier sur tous les toits.
Le qu'est-ce qui vous fait dire que le PASTEF est en train de paniquer, monsieur
Mais ils sont en train de paniquer parce que depuis qu'ils ont vu, ou bien qu'ils ont vu le communiqué du ministre de l'Intérieur, on les entend crier partout en disant...
Ils ont peur de la dissolution de leur parti? Parce que pour vous, c'est un risque réel?
Apparemment, d'après leur réaction, ils sont en train de paniquer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, les Sénégalais vont savoir. En tout cas, ce que je peux vous dire est que l'Alliance pour la République, ce qu'il a dit en disant qu'ils n'ont jamais déposé leur compte, c'est totalement faux parce que nous, on a créé notre parti en 2009 et s'ils veulent avoir des informations, ils n'ont qu'à aller là pour qu'on peut avoir des informations. Notre parti est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Il est en règle et nous n'avons quand même pas de leçon de bonne démocratie à recevoir de son parti politique.
Merci beaucoup, monsieur Mbo. Mouhamadou Gouda Bouop, voilà les politiciens qui se déchirent un peu autour de cette levée de fonds. Pourtant, les experts affirment que le débat n'est pas nouveau au Sénégal. Qu'est-ce qui fait que, finalement, aujourd'hui, il revient au centre de la querelle politique? Est-ce que c'est seulement cette levée de fonds du PASTEF?
Non, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Et qu'en réalité, donc, l'argent des partis politiques, quand même, doit être contrôlé. Parce que quand même, il y va de la sécurité intérieure et de la sécurité nationale. Et que donc, nous sommes donc dans des systèmes où Donc, c'est l'argent, n'est-ce pas, qui fait le pouvoir. C'est quasiment l'argent qui fait élection. Et là, quand même, donc, le
suffrage. Et donc, on peut dire que l'enjeu au centre, ce qui fait lever le débat, c'est la présidentielle prévue dans 4 ans, où chacune des parties se prépare à avoir un vrai arsenal pour affronter cette élection.
Oui, mais au-delà de ça, je pense que quand même, il y a un mérite qu'il faut souligner de la part concernant le parti PASTEF, parce que eux, quand même, ils ont été innovants. Et d'ailleurs, je pense que tout à l'heure même, donc, l'honorable député Abdou Bow l'a dit, que quand même, donc, il n'y a pas donc une réglementation du financement public des partis politiques, parce que l'État ne finance pas les partis politiques. Donc, forcément, les partis politiques seront obligés quand même d'aller chercher des fonds et du financement. Mais le parti au pouvoir, c'est ça, en réalité, la discrimination, parce qu'il bénéficie quand même, donc, des subsides de l'État, et donc, du coup, donc, il est mieux armé quand même, donc, pour préparer les échéances futures. Mais au-delà de ça, je rappelle aussi que le parti PASTEF, le 16 février 2017, avait écrit une lettre au ministre de l'Intérieur d'alors, qui est devenu le ministre des Finances, M. Abdoulaye Daouda Diallo, pour lui demander quand même de clarifier la situation des partis politiques au regard de la réglementation. Et jusqu'à présent, le ministre de l'Intérieur ne les a pas répondu. En réalité, il y a aussi donc les lacunes de la loi, dans la mesure où la loi ne permet pas aujourd'hui, quand même, donc, de réglementer véritablement le financement des partis politiques. Et c'est une carence législative, c'est ce qu'on appelle l'incompétence législative.
Mais qu'est-ce qui fait justement qu'il n'y a pas ce déficit de clarification depuis des années? Même sous Wade, le débat se posait déjà, il n'a pas été tranché. Macky Sall arrive, le débat se pose, il n'est pas tranché. Pourquoi ce flou est maintenu? Pourquoi refuse-t-on de clarifier le financement des partis politiques?
Parce que tout simplement, c'est une absence de volonté politique, tout simplement. Parce que les politiques ont l'habitude de dire que avant moi, la loi, elle est mauvaise. Après moi, elle le sera beaucoup plus. Mais pendant que je suis au pouvoir, on n'y touche pas. On ne veut pas faire des réformes. Réformer le système partisan sénégalais est une exigence. D'autant plus que, avec le président Macky Sall, il y a eu un référendum où on a modifié quand même donc l'article 4 de la Constitution qui parle des partis politiques et qui parle de la modernisation des partis politiques, parle bel et bien de la modernisation du financement du système partisan. Mais malheureusement, les politiques n'ont pas cette volonté de réformer la loi ou de l'appliquer à la lettre.
Pourquoi, en quelques mots, M. Bob, comment expliquer ce vide? Parce qu'en même temps, on accuse, par exemple, régulièrement les partis au pouvoir qui sont succédés au Sénégal, que ce soit le PDS d'Abdoulaye Wade et maintenant l'APR, de se servir des fonds publics pour financer les partis, alors que une clarification, une transparence aurait pu permettre que chaque parti puisse bénéficier peut-être des fonds publics et en justifier l'usage.
Parce qu'en réalité, les gens ne veulent pas que donc voilà les partis soient à égale dignité, pour que quand même donc qu'il y ait une transparence dans l'élection et que donc l'électeur puisse décider convenablement et en fonction quand même des poids politiques. Mais aujourd'hui, je dis que si la loi n'a pas été changée, si la loi est dans un statu quo ante, c'est parce que tout simplement il n'y a pas cette volonté de la réformer.
Merci beaucoup.
Et je ne pense pas que les gens seraient prêts pour la réformer, parce qu'en réalité, ça arrange beaucoup plus, donc voilà, le jeu.
Merci beaucoup. Abdoumbo, une réponse à cela. Qui profite ce flou concernant la transparence dans la collecte des fonds des partis politiques?
Mais madame, il faut dire que quand même il y a eu des avancées, ça il faut le noter. C'est vrai qu'on n'a pas encore terminé, mais je vous dis que en 2016, un référendum avait été initié par le président Macky Sall et on y a mis la modernisation des partis politiques, ça c'est un. Le dialogue national dont vous entendez parler, il y a une sous-commission qui parle du financement des partis politiques. Le PASTEF même était représenté par un certain M. Chaou dans cette sous-commission. Les résultats ont été transmis au président de la République et aujourd'hui, on est en train de travailler à avoir un projet de loi pour aller totalement dans l'éclaircissement du financement.
Quand est-ce que ce projet de loi sera disponible?
Mais bientôt, madame, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas longtemps qu'on a déposé les conclusions au niveau du chef de l'État. Donc, une administration, ça fonctionne avec des enjeux que vous savez, mais Allô. De loi qui parlera du financement des partis politiques.
Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une dernière pause et nous nous retrouvons dans un instant pour la suite et fin de ce grand rendez-vous concernant le Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le grand rendez-vous ce soir concerne l'opération de levée des fonds du parti d'opposition PASTEF au Sénégal, une opération qui fait l'objet de controverses. Et nous en débattons ce soir avec Abdou Mbo, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'APR au pouvoir au Sénégal, Mouhamadou Gouda Bop, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Amadou Ba, juriste et membre du mouvement des cadres de PASTEF, parti d'opposition de Ousmane Sonko. Messieurs, ça va aller très vite et je vous prie d'être bref dans vos réponses parce que c'est la conclusion. Alors, avant la pause, on écoutait M. Mbo annoncer qu'il y aura un projet de loi bientôt, on ne sait pas quand, il n'a pas précisé, à l'Assemblée nationale sur le financement des partis politiques. Mais en même temps, on a suivi beaucoup d'acteurs, M. Mbo, comme Khalifa Sall, qui vous a exprimé son soutien, l'ancien maire de Dakar, opposant. Mais aussi, on a entendu Alioune Tine, qui est le président du club de pensée Africa Jump Center, demander un débat national et sur la question du financement des partis politiques. Alors, on a deux informations là concernant cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle est la solution d'après vous?
Mais vous savez. Que quand même, le Sénégal n'est pas en crise pour appeler à des assises ou un débat national. Un débat national ne peut pas, par exemple, dépasser ce qu'on appelle le dialogue national où toutes les parties de la société sont représentées. La société civile, les hommes politiques, c'est-à-dire l'opposition, le pouvoir et les non-alignés. Donc, je pense que toutes les couches de la société sont en train de discuter pour avoir un projet de loi sur le financement des partis politiques. Donc voilà un peu ce que les gens sont en train de faire.
Et, excusez-moi, monsieur Bob, je posais la question parce qu'il y a d'une part ce projet qui est déjà annoncé et en même temps on demande un débat national. Faut-il suspendre dans le processus du projet de loi qui sera proposé? On l'arrête? On va vers le dialogue?
Madame, on a dépassé cela parce que le dialogue a déposé ses conclusions. Maintenant, il appartient au gouvernement de voir comment présenter un projet de loi en rapport avec les conclusions qu'on a déposées sur la table du chef de l'État.
Donc il n'est plus question d'organiser un débat national sur la question.
Mais pourquoi? Mais le débat a été déjà organisé et toutes les couches de la société ont participé à cela. Je vous dis même que PASTEF avait un représentant dans cette sous-commission qui parlait du financement des partis politiques. Ça, je suis formel, et c'est Michel Sow qui était le représentant. Le pouvoir a été représenté, l'opposition a été représentée, la société civile a été représentée par Mounjaï Cissé. Donc, toutes les couches de la société ont débattu sur ça, et des professeurs émérites, des personnalités qui sont quand même des personnalités de droit, ont réfléchi pour quand même sortir des conclusions.
D'accord, donc, il faut aller vers ce projet de loi. Aujourd'hui, quel est, en quelques mots, vraiment, et on écoutera les deux autres intervenants, pour vous, quelle est l'issue de ce qui vous oppose aujourd'hui au ministère de l'Intérieur?
Vous dites?
Quelle est l'issue, quelle peut être la solution de ces bras de fer qui vous opposent aujourd'hui au ministère de l'Intérieur concernant votre levée de fonds dans la perspective de 2024?
Mais je pense qu'il n'y a pas, encore une fois de plus, il n'y a pas un bras de fer. Le ministre de l'Intérieur a rappelé ce que la loi dit. Maintenant, si des partis politiques veulent vraiment que tout se passe très bien, ils n'ont qu'à quand même respecter la loi. C'est tout simplement
d'accord.
Ça. Mais il n'y a pas
beaucoup
un bras de fer qui oppose le ministre de l'Intérieur avec un parti politique quelconque.
Merci, M. Mbo. M. Ba, dialogue. Comme le suggère, on vient de l'entendre, je le mentionnais, Alioune Tine ou Khalifa Sall, qui vous a exprimé son soutien, ou faut-il aller vers ce projet de loi qu'annonce le gouvernement? Monsieur Ba? Alors, Monsieur Ba, il semble que Monsieur Ba ne nous entende pas. Monsieur Gouda, est-ce que vous êtes... Oui, oui, est-ce que vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît?
Je rappelle, oui, que le gouvernement n'a jamais annoncé de projet de loi.
Ça vient d'être fait, là. Il vient d'être, Monsieur Mbow vient de le dire.
C'est Monsieur Mbow qui vient de le dire. C'est pas le gouvernement. Il n'y a jamais de projet de loi déposé. L'affaire dure depuis 2016. Le gouvernement avait largement le temps, on est en 2021, de déposer, comme le référendum lui demandait, la loi sur le financement des partis. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, l'urgence, parce que c'est plus qu'urgent pour tous les partis politiques de clarifier cette histoire de financement des partis. Est-ce que maintenant, la sous-commission, effectivement, nous étions représentés, on lui demande juste d'appliquer les conclusions. Il demande deux choses, deux réformes majeures. Que les partis politiques déposent désormais leur compte annuel à la Cour des comptes et non au ministère de l'Intérieur. Parce qu'un organe politique affilié au gouvernement est affilié au principal parti
n'est pas neutre selon vous.
Donc, ils vont le refuser. Deuxième réforme urgente, il faut que les comptes de campagne, au-delà du financement des partis, les comptes de campagne soient vérifiés par le Conseil constitutionnel au Sénégal. Ça ne l'est pas. Un président de la République peut dépenser 1 milliard. Par la suite, il n'y aura aucun contrôle, comme ça s'est fait en France. On a vu Sarkozy être obligé de rembourser l'argent de la campagne parce que ça a été dépensé de façon indue.
Ils et ont pour dépensé. Finir
donc, il faut, on a besoin, nous, parce que nous appelons de tous nos voeux à une clarification du financement, parce qu'on sait que les groupes de pression montent des partis politiques pour après s'accaparer des ressources du pays.
Merci. Et en attendant, vous allez poursuivre votre opération de levée juste pour financer l'élection de 2024.
Cette loi de 1981 avait prévu un décret pour préciser quelles sont les pièces comptables à déposer au ministère de l'Intérieur. Depuis 1981...
Mais monsieur, on ne va pas refaire le débat, s'il vous plaît. Est-ce que vous dites que vous allez continuer à mener votre collecte jusqu'en 2024, comme vous l'avez dit?
Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation. On ne peut pas interdire aux Sénégalais qui sont, de par la loi, actuellement, peuvent élire des députés. La diaspora est considérée comme la 15e région du Sénégal. Ils peuvent élire des députés, mais ils ne peuvent pas participer au financement des
partis. Merci. Vous avez évité ma question, ce n'est pas grave. Monsieur Mbow,
Oui. La collecte, je vous l'ai dit, parce que juridiquement, nous sommes dans le respect de
Merci.
La loi.
Monsieur Mbow, quelle issue aujourd'hui pour sortir de ce... c'est vrai que le représentant de l'APR dit qu'il n'y a pas de bras de fer, ce qui n'est manifestement pas le cas quand on écoute M. Ba. Comment en sortir aujourd'hui, on peut dire, de cette tension?
Alors, pour moi, je dis que l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. Et que donc, je pense que les acteurs politiques ont toujours trouvé un consensus sur le financement, n'est-ce pas, de la vie politique. Maintenant, il faut savoir qu'en réalité, il est urgent quand même de modifier la loi. Mais avant de modifier, il y a une chose, il faut appliquer rigoureusement la réglementation qui existe, parce que le ministre de l'Intérieur ne l'applique pas, quasiment aucun parti n'est en règle avec la réglementation qui existe déjà. Donc il faut appliquer la réglementation, mais il faut aller vers les réformes qu'il faudrait prendre, notamment en initiant une loi qui va moderniser le financement des partis politiques. Parce que si on ne le fait pas...
Monsieur Mbow vient d'annoncer un projet de loi imminent.
Peut-être que voilà, il est plus informé que nous, mais moi, je ne suis pas au courant d'un tel projet de loi. En tout cas, ça n'a pas été annoncé. Ce qui a été annoncé, c'est les conclusions, n'est-ce pas, de la sous-commission quand même du dialogue national, qui avait donc traité cette question par rapport donc au financement du système partisan, avec notamment la société civile et les représentants des partis politiques. Maintenant, s'il y a un projet de loi qui est dans le statut, moi, je ne suis pas au courant. Mais en tout cas, ce serait bienvenu pour pouvoir tout simplement donc clarifier la situation.
Monsieur Mbow, merci. Un mot de fin, s'il vous plaît, en 15 secondes.
Je voudrais aussi préciser que j'ai très bien dit, parce que le président de la République même avait... Tout comme ça,
va parler. Désolé, Monsieur Mbow, on ne vous entend pas. Je suis vraiment navré. La ligne s'est interrompue avec vous. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce grand rendez-vous sur. L'opération de levée de fonds du parti d'opposition PASTEF au Sénégal. Était avec nous Amadou Ba, juriste et membre du mouvement des cadres de PASTEF à Dakar, Mohamedou Gouda Bouop, enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Abdou Mbow, premier vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole adjoint de l'APR, parti au pouvoir. Merci à Edouard Ning et à Edouard Vallière qui m'ont aidé, Hugo Vallière qui m'ont aidé à vous présenter cette émission.